Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à tous, c'est Julien et vous écoutez bien Analyse F1 dans ce qu'il ne fallait pas manquer en Belgique lors de cette saison 2016 de Formule 1. On va commencer tout de suite par parler de la course, évidemment, et on va commencer par les pilotes Mercedes. Les pilotes Mercedes, donc, tout d'abord Nico Rosberg qui a fait la course parfaite, il partait en pole position, il s'est plutôt bien élancé, il est resté en tête au premier virage. Il est resté en tête surtout après le raidillon et après la grande ligne droite. Il était bien élancé de l'épingle. Ensuite, malgré les incidents, la voiture de sécurité virtuelle puis le drapeau rouge, il a su rester calme, ne pas offrir d'opportunités à ses adversaires, donc qui pouvaient être Ricciardo ou les Ferrari ou même Hamilton. Et il a creusé un bon écart. Et il a remporté cette course de main de maître. Donc il a fait le boulot. Il a fait le boulot pour revenir à quelques encablures de son coéquipier. Et seulement à 9 points de son coéquipier. Oui, vous allez me dire, mais il a quasi rien récupéré. Il a récupéré 10 points seulement. Ça veut dire qu'Hamilton est arrivé 3e. Et oui, Hamilton est arrivé 3e. Alors pourquoi est-ce si surprenant si vous aviez loupé ce week-end à Spa, qui est un week-end qu'il ne faut pas louper. Spa-Francorchamps, quand même, c'est un circuit mythique, j'aurais pu commencer par là le podcast, mais j'ai pas inventé l'eau chaude pour dire ça, mais c'est un circuit énorme dans les Ardennes belges, au milieu de la forêt et tout, c'est magnifique, le plus long en termes de distance, c'est le plus long circuit du calendrier de Formule 1, donc ça parle quoi, et puis il a toujours cette dimension historique parce qu'il a été quand même finalement assez peu modifié à travers le temps, en tout cas moins que d'autres circuits comme par exemple Barcelone où il y a carrément un secteur qui a été modifié. Mais voilà, du coup ça reste un grand prix à voir ou à assister aussi sur place. D'ailleurs ça a fait carton plein, petit aparté, ça a fait carton plein. Il n'y avait plus autant de spectateurs aux abords du circuit depuis je crois au moins 15 ans, une quinzaine d'années. Et ça, c'est en partie grâce aux supporters néerlandais qui ont été nombreux aux abords du circuit pour supporter Max Verstappen. Donc voilà, ça c'est l'aspect positif de Verstappen, c'est qu'il amène de nouveaux fans, on va dire, pas mal de fans. Et c'est pas mal pour ce genre de Grand Prix, parce qu'on sait évidemment, pour qu'un Grand Prix reste au calendrier de la F1, il faut qu'il rapporte des sous également. Faut que les organisateurs puissent s'y retrouver au niveau des sous, que Bernie Ecclestone aussi puisse s'y retrouver. Donc là, au moins, tout le monde était content. Et c'est beau à voir aussi à la télé, de voir du monde sur un circuit de F1. Bref, Hamilton donc partait en dernière ligne de la grille de départ. Bon dernier, il me semble. Ça se joue avec Alonso, mais bref, dernière ligne. Et parce qu'il avait dû changer de composant de l'unité de puissance. Il avait changé de moteur, quoi, en gros. Car il en était déjà à ses cinquièmes composants sur certaines parties du moteur, de l'unité de puissance. Et on le sait, à partir du sixième composant, eh bien, on prend une pénalité de 10 places sur la grille de départ. Donc, Hamilton voulait choisir un circuit où il était plutôt aisé de dépasser. On pensait direct Spa, Monza, ça pouvait être sympa. Finalement, après les essais libres, il s'est avéré que quand même Spa, c'était pas forcément un bon choix. Parce qu'avec les pressions minimales très élevées, la surchauffe des pneus qui intervient rapidement, donc encore plus rapidement quand on suit d'autres monoplaces, quand on est dans le peloton, la dégradation qui était un vrai problème le vendredi lors des essais libres. Hamilton n'était pas non plus très confiant. Il disait on va essayer de remonter dans le top 10, puis après on verra, mais il y a quand même de l'incertitude avec ces histoires de pneumatiques. D'ailleurs, gros tollé sur les pneumatiques. C'est encore une fois assez scandaleux ces histoires de pression minimale. Tout le monde s'en est plaint lors du week-end à Spa. et vraiment quasi, enfin vraiment beaucoup de monde quoi dans le paddock, hein, plus qu'à l'accoutumée. Comme quoi, c'est un vrai problème qu'on espère se voir régler, surtout en 2017, évidemment. Donc Hamilton partait dernier, il a fait un bon, plutôt bon départ, et au final, ben, il a profité du drapeau rouge parce qu'il avait retardé son premier arrêt. Il avait dû partir avec la gamme de pneus la plus dure emmenée par Pirelli, qui devait être les médiums, je crois, à Spa. Et du coup, il a longé son relais, et puis par chance, enfin par chance, oui, quelque part par chance, il y a eu un incident de course, donc l'accident de Magnussen, je reviendrai dessus. Et donc le drapeau rouge, et il a profité du drapeau rouge pour, ben, il s'est retrouvé, je crois, cinquième, ouais, cinquième au moment du drapeau rouge quand même, parce qu'il y en avait qui avaient effectué leur premier arrêt, pas lui. Et au drapeau rouge, il a pu changer de gomme, comme tout le monde, pour repartir. Et du coup, ben, c'est comme s'il partait cinquième sur la grille. Et étant donné qu'il a une Mercedes, eh bien, il a pu remonter assez facilement à la troisième place. Et donc, ben, il était plutôt satisfait de ce podium, quoi, de limiter la casse. C'était ça le but. Là, il limite plus que ça. Hein, il conserve la tête du championnat du monde et il garde 9 points d'avance, ce qui est intéressant. D'ailleurs, Rosberg était assez surpris de voir son coéquipier britannique sur la troisième marche du podium. Hein. Il s'attendait pas à ça, évidemment, parce qu'il refusait de suivre, on va dire, la course d'Hamilton, la remontée d'Hamilton durant le Grand Prix. Il était concentré juste sur sa course. Rosberg, c'est pas plus mal, parce que quand il se focalise sur Hamilton en course, à chaque fois, c'est négatif pour Rosberg. Là, il était concentré que sur sa course et c'était mieux pour lui. Mais voilà, c'est vrai qu'à la fin du Grand Prix, le langage corporel était là du côté de Rosberg et on sentait qu'il aurait aimé ne pas voir Hamilton sur ce podium. Évidemment, ça se comprend. Maintenant, il faut parler un peu des autres. J'aime bien parler un peu des pilotes Mercedes au début puisque c'est eux qui font l'actualité, c'est eux qui luttent pour le titre. Donc évidemment, il faut en parler. Mais il y a également d'autres choses qui se sont passées durant ce Grand Prix. Et je vais parler, une fois n'est pas coutume, de McLaren. McLaren Honda, sous le prisme de la course d'Alonso, Fernando Alonso, le pilote espagnol, qui est parti. Non, c'est lui qui était parti dernier, pardon, et Hamilton avant-dernier. Oh, c'est qu'ils se sont battus avec les pénalités. Il y en avait un, il en avait 55, l'autre 50, je crois, et encore, je suis peut-être loin du compte. Un truc de fou. Alonso, pareil, il a eu des problèmes avec. Ah oui, en plus Alonso, là, c'est une course folle parce que au début, il était censé embarquer le moteur amélioré, l'unité de puissance améliorée de Honda durant ce week-end de Grand Prix. Et au début du week-end de Grand Prix, ben, il y a eu un problème au niveau de cette unité de puissance de la part d'Alonso et du coup, il a été obligé de revenir à l'ancienne spécification alors que Button avait la nouvelle. Et Alonso, voilà, même avec l'ancienne spécification, il est arrivé septième du Grand Prix. Et oui, il part dernier du Grand Prix et il fait un très bon départ. Alors Alonso, les départs d'Alonso, c'est quelque chose. Il faut en reparler parce que souvenez-vous avec Ferrari. Bon, je parle pas de Renault parce que Renault, ils avaient vraiment un système de départ. Donc, tu pouvais être le pire du monde pour débarrer, le pire pilote de la grille. Ça faisait quand même un bon départ avec cette Renault en 2005-2006. J'ai jamais compris comment ce système pouvait être autorisé, mais bref, ils ont joué avec le règlement, hein, comme on a vu dans toute l'histoire de la Formule 1, et puis ça a marché. Bref, Alonso chez Ferrari, c'était au niveau des départs, souvenez-vous, c'était quelque chose, hein, c'était exceptionnel. Et ben là, pareil avec McLaren Honda, il part 22e, et après un tour, je crois qu'il était 11e, je crois que je le voyais 11e ou 12e. Dans le classement, et je me disais, il était 2 places devant Hamilton. Je me disais, waouh, mais ce départ qu'il a dû faire, Alonso. Alors, j'aurais bien aimé le voir en caméra embarquée. Je sais pas si, je pense pas que sur Onboard, sur Canal+, ils ont dû montrer le départ d'Alonso en caméra embarquée. Mais c'est vrai que ce serait quelque chose à voir. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion de voir ça, je pense qu'il faut s'en délecter parce que ça a dû être quelque chose d'assez exceptionnel, encore une fois. Parce que ce qui est exceptionnel là, c'est qu'il part dernier, donc il se retrouve dans le peloton. Au premier virage à Spa, donc c'est l'épingle de la source, et ça fait un effet entonnoir, un effet comment dire, ben il y a un gros freinage, donc tous les pilotes vont se rapprocher, donc il faut être prudent, donc à la fois être prudent, esquiver les ennuis et doubler des concurrents, c'est assez compliqué. Et en plus, après, il y a la longue ligne droite. On sait que le Honda n'est pas le plus efficace là-dessus. Donc Alonso a fait du très bon boulot dans ce premier tour, hein, franchement. Et au final, voilà, il arrive septième. Il arrive septième du Grand Prix, ce qui montre quand même le progrès de McLaren Honda. C'est ça, je voulais en parler déjà depuis quelques courses. Pas beaucoup de courses, hein, mais quelques courses. Mais malgré que j'ai pu hacher menu McLaren Honda depuis leur arrivée, et surtout McLaren, je les critique depuis 2013, hein, concrètement, depuis qu'ils ne font plus rien et que leur façon de penser est hautaine, arrogante, et que y a très peu de remise en question, en tout cas pas assez de leur côté. Avec l'arrivée de Honda, critiquable aussi, à un moment charnière de, on va dire, de l'histoire de la F1, puisqu'on passe au V6 turbo hybride, et McLaren fait appel à un nouveau motoriste. C'était pas, finalement, au final, on peut en tirer des conclusions, et j'en tirerai, je pense, lors d'un prochain podcast, hein, de cette nouvelle épopée McLaren Honda. Et on s'est fait bananer au début, hein, quand on a vu leur retour. Ils ont fait un bon plan de communication, mais voilà, c'est tombé à. Ça a fait flop, hein, ça c'est clair, ça a fait flop. Et c'est, moi je trouve que c'est triste pour les pilotes surtout, hein, qui sont des champions du monde émérites et qui méritent mieux que ça, hein, tout simplement. Donc bref, mais mis à part ça, il faut quand même observer que McLaren Honda a fait des progrès ces derniers temps. Et ça s'est matérialisé par déjà cette position 7e à Spa. Comme le dit Alonso, l'année dernière à Spa, on prenait deux tours. Alors j'ai pas vérifié, hein, je lui fais confiance. Il disait on prenait deux tours, enfin. Je me souviens de l'année dernière, McLaren Honda, c'était soit abandon, soit ils prenaient un ou deux tours. Donc bon, que ce soit un ou deux tours, peu importe. Et cette saison, ils arrivent à lutter pour les points. Et à prendre au maximum un tour, quoi. Et à lutter avec d'autres écuries, ben là en ce moment ils luttent quand même avec Haas, avec ben, ils luttent bien avec Toro Rosso, ils sont bien devant, ils luttent même avec Force India, hein, quand même sur certains grands prix, ils sont à la lutte, voire devant des fois, mais ils font une saison meilleure que la saison dernière, il n'y avait pas de mal, mais surtout il y a un progrès tout au long de la saison, il y a un progrès tout au long de la saison. Début de saison, on les voyait souvent 12, 13e et tout, ils étaient bien dans le cœur du peloton, et là on les voit souvent entre la 7e et la 10e place. C'est bien, c'est positif, ils remontent, hein, petit à petit, malgré le déficit en puissance moteur. Ça montre que le châssis McLaren est pas mal, mais pas aussi bien qu'on veut nous le faire croire, hein, parce que chez McLaren, encore une fois, l'arrogance a frappé il y a quelques semaines quand j'ai vu que. Je sais plus si c'est Ron Dennis ou un autre, ou Eric Boullier qui disait que, enfin, c'est quelqu'un de McLaren, d'assez haut placé, qui disait que le châssis McLaren était le troisième du plateau, ou un truc comme ça, ou équivalent à celui de Ferrari. Et quand j'entends les pilotes parler, moi je vois pas ça, hein. Quand j'entends Alonso et Button parler de leur châssis, que ce soit lors de la radio, des conversations radio ou dans les interviews, même s'ils le disent pas clairement, on voit bien que par rapport aux déclarations de Raikkonen et Vettel, c'est pas la même confiance en leur châssis, hein. Donc il y a des progrès à faire aussi du côté châssis, c'est indéniable. Mais y a quand même, ils ont quand même un bon châssis. Le Honda s'améliore petit à petit. En ligne droite, ils se font bouffer encore, hein, mais on sent que c'est moins net quand même que la saison dernière, beaucoup moins net. Et ils arrivent également à faire des dépassements avec le DRS, ce qui l'année dernière était impossible, enfin quasiment impossible pour McLaren Honda. Donc c'est bien, il fallait souligner ce progrès. Et bah on espère que 2017 amènera avec l'année 2017 amènera avec elle, on va dire la renaissance de McLaren qu'on attend depuis longtemps, parce que c'est un top team quand même, un des plus gros budgets de la F1, qui ne risque pas de le rester, hein, s'il reste à ce niveau de performance pendant sur le long terme, on va dire. Mais voilà, ils doivent être plus haut, ils doivent être plus haut, ils sont pas là où ils doivent être, ça montre qu'il y a un souci au niveau de la qualité du travail, tout simplement, que ce soit du côté châssis ou motoriste. Pour rester dans le positif, je vais parler d'une autre écurie qui m'a bien plu, c'est Force India, évidemment, qui me plaît depuis maintenant pas mal de temps, pour leur régularité, leur stabilité, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Force India en forme à Spa, hein, qui passe devant Williams, hein. C'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel, Force India. Rendez-vous compte, qui passe devant Williams en cours de saison, et là en cours de saison, donc bien après la, enfin la mi-saison, juste après la trêve estivale. Donc c'est très fort de la part de cette écurie. Et ça parle. Alors forcément, enfin, alors ça s'est fait sur le circuit qui plaît à Force India en général. On ne sait pas trop pourquoi, mais la monoplace indienne y arrive bien. Ils ont terminé quatrième et cinquième hein, quand même de cette course. C'est le circuit Force India quelque part, le circuit Raikkonen, le circuit Force India, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, ça plaît beaucoup à ces entités. Et donc, ça marque quand même un tournant, une lutte dans le championnat du monde des constructeurs qu'il faudra suivre jusqu'à la fin. Et faut espérer vraiment voir des passes d'armes directes en course entre les pilotes Force India et les pilotes Williams, hein. Bottas, Massa, Pérez et Hülkenberg, on veut les voir comme ça, c'est comme ça qu'ils vont se montrer et c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour Williams qui avait l'habitude d'être un peu esseulé. Bah là, ils sont en lutte avec Force India, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Ils préféraient, je pense, être esseulés un peu devant, mais là, il va falloir lutter. Il va falloir lutter jusqu'à la fin. Alors Williams, ils sont repassés devant au Grand Prix d'Italie, donc le Grand Prix qui a suivi là, qui s'est déroulé le week-end dernier. Mais voilà, ça reste très serré. Et, à mon avis, ça va lutter un peu jusqu'au bout. Par contre, voilà, un autre truc à noter sur la course de Force India. Alors certes, c'est un très beau résultat d'ensemble de la part de cette écurie à Spa, mais Nico Hülkenberg, encore une fois, loupe une opportunité de podium, hein. Il finit quatrième. Alors c'est compliqué avec la Force India, certes, mais on a l'impression qu'il va jamais y arriver alors que son coéquipier y est arrivé plein de fois. Et c'est dommage. Enfin, on peut pas trop lui jeter la pierre, Nico Hülkenberg, mais quand même. Il loupe des opportunités là. Est-ce que c'en était une à Spa? Peut-être, peut-être. Après, c'est dur de dire ça parce que je pense pas qu'il avait la monoplace qui avait les qualités pour le faire. Mais en termes de défense, c'est vrai qu'il s'est fait passer un peu facilement par ses adversaires, malheureusement. Et voilà, malgré un bon départ, il me semble quand même de Nico Hülkenberg hein, lors de ce Grand Prix. Mais voilà, c'est un peu dommage pour lui. Heureusement, il n'a pas sombré hein, pendant ce Grand Prix et il termine quatrième. Donc c'est pas mal. J'en ai un peu parlé précédemment, du drapeau rouge. Le drapeau rouge qui a été un tournant dans la course tout simplement et où on a vu tous les pilotes, je crois il n'y a pas eu d'exception, à peu près tous les pilotes ont décidé de changer de gomme pneumatique lors... de ce drapeau rouge. Alors il y avait un peu de flottement de la part des commentateurs français Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Enfin français, Jacques Villeneuve est canadien. Donc quand je dis commentateur français, évidemment, c'est pour faire référence à la chaîne française Canal+. Mais je fais attention. Je sais que Jacques Villeneuve est canadien. Ne vous en faites pas. Donc voilà. Et du coup, on a découvert, si on ne le savait pas déjà, que tout le monde a le droit de changer de gomme pneumatique sous régime de drapeau rouge. Alors il y avait un flottement notamment en raison du fait qu'en début de saison, il y avait Romain Grosjean notamment et d'autres pilotes qui avaient décidé de changer de gomme durant le drapeau rouge à Melbourne et d'autres qui n'avaient pas fait ce choix. Et là, à mon avis, il n'y avait plus de flottement. Tout le monde savait dans le paddock qu'ils pouvaient changer de pneu, donc ils l'ont tous fait et c'est bien normal vu que l'opportunité leur est donnée. Et bon, ben... C'est pas plus mal pour certains, c'est moins bien pour d'autres. Là où c'est moins bien, je trouve, qu'on autorise cela, c'est pour ceux qui avaient décidé de faire une stratégie agressive, par exemple en s'arrêtant plus tôt, et du coup, ils n'ont pas pu montrer du tout leur stratégie. Et là, je parle notamment peut-être d'écuries un peu plus mineures qui n'ont pas pu se montrer. Donc, par exemple, je sais pas, Sauber, Toro Rosso, Haas. Je sais que dans l'eau, il y avait des pilotes qui avaient une stratégie, on va dire, décalée, et le drapeau rouge, le fait que le drapeau rouge autorise tout le monde à changer de pneu, eh bien, ça nivelle. Enfin, ça nivelle, non, ça nivelle pas, ça. Comment dire? Eh bien, ça joue en faveur des monoplaces les plus puissantes, tout simplement. Et là, il n'y a pas de secret, il n'y a plus de surprise à partir de là. Les monoplaces les plus rapides allaient être devant parce que les stratégies étaient remises à zéro, tout simplement. À part le fait qu'il y avait la gestion du nombre de trains pneumatiques, donc il y en avait qui avaient guère le choix parce qu'il leur restait pas trop de trains de pneus neufs ou rodés et qui puissent faire la distance. Mais voilà, le fait qu'on puisse changer de pneus durant les drapeaux rouges, Ça aide les écuries les plus fortes, donc ça aide Hamilton évidemment. Bon, Hamilton qui allait changer, ça a aidé Hamilton parce que son changement de pneu a été gratuit, il a pas perdu 24 secondes, il a pas perdu une trentaine de secondes dans son arrêt. Il a pu le faire directement dans le drapeau rouge et repartir cinquième. Ça a aidé plein de monde hein, finalement. Mais par contre, ça en a desservi d'autres. C'est ça qui est triste. Mais bon, il n'y a pas de solution parfaite. Hein. C'est comme le safety car, hein. Quelque part, le régime de safety car pourrait être critiquable, mais il n'y a pas de régime parfait. Il faut intervenir quand il y a un accident. Le régime de voiture de sécurité virtuelle également, il est imparfait. On essaie de l'améliorer en interdisant de s'arrêter dans les stands lors de ce régime, mais ça reste imparfait parce que il y a quand même des petits trucs qui peuvent être prouvés. Et ça dépend quand ce régime commence. Où est par exemple un pilote quand ce régime commence, quand ce régime se termine, du coup il y a toujours une petite injustice pour certains pilotes, on va dire, mais ça fait partie de la course. Ça fait partie de la course et tout le monde doit s'y adapter. Et puis quelque part, c'est pas si injuste que ça concernant le drapeau rouge, parce que les meilleurs monoplaces qui sont récompensés, est-ce qu'on peut critiquer ça? Non. Les autres ont qu'à être meilleurs, ça c'est ça coule de source. Mais ouais, c'est vrai qu'au niveau stratégique, c'est vrai que ça casse un peu la stratégie de certains pilotes et ça profite à d'autres de manière un peu trop avantageuse, on va dire. Mais ça fait partie de la course également. Ceux qui ont une stratégie, on va dire, de prolonger leur relais également peuvent compter également. C'est qu'ils comptent également sur l'apparition d'une voiture de sécurité ou d'un drapeau rouge. Donc ça fait partie également de la stratégie. Donc voilà, il n'y a pas de truc, pas de règle parfaite. Si jamais on interdit le changement de pneu, eh bien les pilotes s'y feront également. Voilà, là, la règle fait que c'est autorisé, donc pourquoi pas, moi j'ai rien à dire par rapport à ça, à part vous expliquer un peu le fonctionnement et les tenants et aboutissants sur le fait que ce soit autorisé. Voilà tout. Et enfin, je vais parler de quelque chose d'un peu plus triste, on va dire, un peu plus négatif. C'est l'accident qu'a eu Kevin Magnussen et qui a entraîné donc ce drapeau rouge. Un accident terrible hein, quand même, terrible au niveau visuel, parce que ça intervient quand même je crois, à 300 km/h, en tout cas quand il perd le contrôle de sa monoplace. Il est en haut du raidillon, il vient de passer le raidillon, il est au sommet, et là, bam, la voiture, il perd le contrôle de sa monoplace, il va taper dans les... je sais pas si c'est les Tech Pro ou les pneus, je crois que c'est une barrière Tech Pro. Enfin bref, il tape dans cette barrière de Tech Pro, cette barrière absorbante, et il tape tellement fort que l'appui-tête, vous savez, quand les pilotes ils sortent de leur voiture, ceux qui sont un peu grands par exemple et qui peuvent pas trop se mouvoir, ben ils vont enlever l'appui-tête déjà pour sortir. C'est très rare qu'ils l'enlèvent pas d'ailleurs, hein, qu'un pilote ne l'enlève pas. Et ça s'enlève assez facilement. Eh bien, on a vu qu'en cas d'accident, là, ça peut s'enlever un peu trop facilement. Alors, c'est rare, hein, c'est peut-être une des premières fois que je vois cet appui-tête s'enlever suite à un crash. Mais là, est-ce que ça vient des fixations de la part de Renault? De la Renault qui ne sont pas assez solides? Ça pourrait être le cas, hein. La Renault, on sait, très peu d'évolution cette saison. Il reste sur une base de Lotus 2015. Donc, la Lotus 2015 qui n'était pas connue pour avoir des pièces... Tip top. Je ne sais pas s'il y a eu un contrôle de la FIA d'ailleurs concernant les attaches de la Renault, de l'appui-tête de la Renault par la suite. Mais attention, parce que quand même l'appui-tête qui se détache, ça aurait pu, on va dire, toucher la tête du pilote par derrière. Peut-être pas faire un coup du lapin non plus, mais à ces vitesses, ça peut, même s'il y a le casque, faire attention quand même. C'est quand même une question de sécurité. Donc on espère que ces appuis-têtes, eh bien, ne s'enlève plus. Donc je sais pas s'il y a eu une enquête de la FIA là-dessus. Peut-être que c'était juste de la malchance et que la voiture a tapé dans un tel angle qui a fait que l'attache de l'appui-tête s'est enlevée et que voilà, l'appui-tête s'est détachée. C'est possible aussi. Hein. Quand il y a des accidents en F1, on peut jamais vraiment tout prévoir malheureusement. Il y a le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais en F1, on ne cessera de le rappeler. Bon, ce qui était plus heureux, c'est de voir Magnussen aller bien après, enfin savoir qu'il allait bien surtout quelques jours après, puisque quand il est sorti de sa monoplace, il boitait. Ensuite, on a su qu'il avait une blessure à la cheville, on savait pas ce que c'était. Finalement, il avait, on va dire, mal à la cheville, mais c'était pas gravissime, c'était pas grave. Puis vu qu'il a pu reprendre le volant dès les essais libres du Grand Prix d'Italie quelques jours plus tard et faire le Grand Prix. Donc c'était bien qu'il n'y avait pas non plus grand-chose, sachant que voilà, on avait peur parce que le Grand Prix d'Italie, c'est des fortes vitesses et notamment un fort freinage, quelques forts freinages, notamment au premier virage. Et donc il faut exercer une pression sur la pédale de frein, donc avec le pied gauche, celui avec lequel Magnussen avait mal. Il faut exercer une pression de au moins, je crois, 130-140 kilos avec le pied gauche. Donc quand on dit que la F1 n'est pas physique, s'il vous plaît, renseignez-vous. Et pas que sur ça, sur d'autres choses. Alors certes, l'année prochaine, elle sera encore plus physique, la F1, mais elle l'est déjà un minimum. Bien moins qu'avant, certes, mais elle l'est quand même toujours. Hein. Elle l'est quand même toujours. Donc voilà, donc accident Kevin Magnussen. Et le même jour, un jour bizarre pour la famille de Magnussen. D'un côté, le fiston qui a un accident à Spa, et de l'autre côté, son père qui voit ça, qui est angoissé un peu, mais qui remporte une course. Son père, oui, son père encore en activité, qui est relativement jeune, on va dire, son père, et qui a réussi à remporter une course dans je ne sais plus quelle catégorie. Je sais qu'il court en sport auto quand même dans une catégorie quand même pas mauvaise, hein, pas un truc de vétéran. De vieux croulants, non, pas du tout, un truc quand même assez relevé. Et je me demande si c'est pas les Blancpain Series d'ailleurs. Je me demande si c'est pas ça. Je suis pas sûr. Je veux pas te dire de bêtises, mais en tout cas, il a remporté la course, donc un jour assez bizarre pour la famille Magnussen. Yann Magnussen, je le rappelle, qui était pilote de F1 dans les années 90. Donc voilà, Kevin Magnussen qui est de retour. Pour combien de temps? Et oui, il faudra en parler ça aussi un jour de Renault, du line-up Renault, hein, qui est incertain, comme pas mal de line-up, hein. J'en parlerai. Il y a quand même un mercato qui se met en place, notamment avec le départ de Massa qui change un peu la donne, le départ provisoire ou non de Button également. Donc il faudra consacrer des podcasts là-dessus, en essayant de ne pas les consacrer trop tard. Là, c'est une note que je me fais à moi-même, évidemment, parce que là, le podcast sur le Grand Prix de Belgique, quand même, qui intervient après le Grand Prix d'Italie, ouais, c'est moyen. Vous m'envoyez navré. Encore une fois, c'est assez compliqué de faire les choses dans les temps. En tout cas, le prochain podcast, donc ce sera ce qu'il ne fallait pas manquer en Italie. Là, je me mouille pas trop, il arrivera avant le Grand Prix de Singapour. Sinon, j'abuse vraiment. Vous pourrez bien me critiquer là-dessus. Déjà que vous pouvez totalement me critiquer sur le fait que je sorte des podcasts un peu en retard. Et il faudra faire une chronique donc sur le départ de Felipe Massa, sur un peu. Ce que ça donne au niveau des transferts, sur l'arrivée d'Esteban Ocon chez Manor également, mais ça, je vais attendre peut-être quelques courses avant également de voir ce qu'il fait également avec cette Manor et en comparaison avec son coéquipier Pascal Wehrlein. Voilà, ça, c'est ce qui va occuper Analyse F1 dans les semaines qui viennent notamment, et bien peut-être bien plus encore, je l'espère en tout cas. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous donne rendez-vous au prochain, et en attendant, comme d'habitude, plus qu'hier, mais moins que demain, vivons! Notre passion. À bientôt à tous.